Attention les amis, c'est un Jungle Fight exceptionnel dans un nouveau lieu à Monaco, le nouveau lycée technique hôtelier de Monaco, flambant neuf s'il vous plaît. Là je crois qu'on peut applaudir tout le monde parce que c'est un endroit absolument magnifique.
Bravo. Ah ouais.
L'endroit a été inauguré par le prince Albert, s'il vous plaît. L'endroit a été inauguré par le prince Albert et la princesse Charlène. C'est vraiment un endroit exceptionnel et j'espère qu'on viendra très souvent ici. Voilà, c'est les Jungle Fight qui démarrent, première grande émission de radio qui parle du sida, de prévention toute l'année, à l'initiative, bien sûr, comme chaque fois, de la princesse Stéphanie.
Bravo.
Bonsoir Stéphanie, bonsoir Altesse, ça va bien?
Bonsoir Monsieur Malher, comment allez-vous?
Oh, j'aime bien quand vous m'appelez monsieur. Ça me...
c'est le respect de l'âge.
Ah Dieu, ça y est, j'ai encore pris des ans à chaque fois. Tous les deux mois, je prends 10 ans avec elle, c'est terrible. Avec nous, toute l'équipe de Fighters, bien sûr, Hervé. Salut Hervé, en pleine
bonsoir,
forme.
Bonsoir Malher, bonsoir Altesse.
Toujours bonsoir Hervé, mes hommages.
Mes hommages, Hervé. Voilà, l'excellent Bruno Taillant. Salut Bruno.
Docteur.
Docteur Bruno Taillant, s'il vous plaît.
Bonsoir voilà. Altesse.
On peut l'applaudir, on applaudit tout le monde ce soir. Et Franck Herman, jolie cravate Franck,
bonsoir,
journaliste à Radio
bonsoir
Monaco.
Bonsoir à tous, effectivement.
Bon, tout va bien, j'espère. On est là pendant 2 heures, on a toujours nos invités. Puis bien sûr, les élèves du lycée technique hôtelier de Monaco, vous êtes là.
Et dans un lieu particulier quand même, puisque là nous sommes au foyer animé par Zaza.
Ah oui,
quand
Zaza,
même.
Oui,
notre
oui, oui.
Zaza, Zaza qui est
oui, d'ailleurs, je
une
lui ai
fidèle
une photo.
De l'émission.
Ah oh, bah Zaza, elle va revenir tout à l'heure pour les déjeuners branchés.
Oui.
Ah ma Zaza.
Et je crois qu'elle est très heureuse de son nouveau.
Tu viens de te lever, Zaza? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu viens de te lever? Non? Tu vas aller te coucher, d'accord? On va te récupérer avant. On va démarrer, mon cher Franck. C'était il y a 30 ans, pile poil, le sida.
Mais effectivement,
1983.
C'était en janvier 83. Le virus s'était enfin isolé par le professeur Jean-Claude Sherman à l'Institut Pasteur de Paris sous la direction du professeur Luc Montagnier. Alors, l'histoire du virus du sida, ça remonte aux années 70, fin des années 60, avec les premiers cas signalés en provenance d'Haïti. En 81, le centre des infections d'Atlanta déclare que c'est un vrai problème sanitaire. 82, on invente le mot sida en France, syndrome
d'immunodéficience
acquise.
Avant, comment on appelait ça?
C'est un virus, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et en 86, eh bien, le virus donc qui vient d'être découvert 3 ans plus tôt par l'équipe du professeur Montagnier à Paris, eh bien, est appelé HIV. 87, enfin, on trouve un premier traitement, même si c'est très très lourd, c'est très difficile de le prendre avec des effets secondaires. Ça s'appelait à l'époque l'AZT.
Ouais.
94, naissance du SIDA Action. C'est la première fois qu'on médiatise vraiment le SIDA en France, dans le pays voisin. En 96, les premières thérapies sont élaborées. Elles restent évidemment très lourdes. On appelle ça les trithérapies. Et depuis 2002, eh bien, le sida est déclaré pandémie mondiale par l'ONU, qui donc a créé également l'ONU Sida. Donc, princesse Stéphanie, vous êtes une ambassadrice.
Oui.
De charme, s'il vous plaît.
Et de choc.
Et de choc. Bruno Taillant.
Dans les années 80, ça s'appelait le gay syndrome, je ne sais pas pourquoi.
Bah, c'était lié, on pensait que, voilà, j'aurais pas, bon.
Parce qu'on pensait à l'époque que ça ne touchait et que ça ne toucherait que les homosexuels.
Exactement.
Et voilà, il a fallu ensuite, épidémiologiquement, qu'on s'aperçoive que malheureusement personne n'était à l'abri et que tout le monde pouvait être touché, homosexuel ou pas.
Dis-moi, Bruno, pour revenir 30 ans après, les avancées. Bon, déjà, les trithérapies sont beaucoup plus légères, mais...
30 ans après, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait dans aucune maladie où on ait fait des progrès aussi rapides et aussi importants, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit dans la prévention et que ce soit dans le traitement.
Et on a le sentiment quand même, Bruno, où 30 ans, ça fait beaucoup, non? Quand tu discutes avec les gens, certaines personnes sont persuadées qu'on soigne le sida.
C'est le problème actuel qui participe au développement de l'épidémiologie, mais je crois qu'effectivement, les traitements sont devenus tellement efficaces et d'une tolérance nettement améliorée que finalement, les gens se protègent de moins en moins parce que pour eux, c'est une banalisation et pour eux, devenir séropositif n'est pas un problème. Sauf que devenir séropositif reste un problème puisque on va pas rentrer dans les détails, mais je rappelle qu'à l'heure actuelle, les séropositifs meurent beaucoup plus que les autres de maladies cardiovasculaires, de cancer ou de problèmes hépatiques. Donc, le simple fait d'être séropositif impacte l'espérance de vie et impacte un certain nombre de complications. Donc, il faut agir en amont, il faut se protéger et on a fait d'énormes progrès sur la prévention. Il n'y a pas que les trithérapies, il y a la prévention dont on pourra parler et reparler, mais c'est un ensemble de choses. Et en 30 ans, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, à tel point que beaucoup, maintenant, dans les congrès scientifiques, et ça c'est depuis un an, et notamment le professeur Gallo, parle d'éradiquer, de guérir le sida. Alors, on n'y est pas encore. On en reparlera peut-être aussi. On commence à parler de guérison fonctionnelle, c'est-à-dire l'enfant Mississippi, on en reparlera peut-être tout à l'heure, un enfant qui est devenu séronégatif sous trithérapie, dont on pense qu'il est possiblement guéri fonctionnellement. Donc il y a quand même des progrès, des avancées majeures qui incitent à l'optimisme.
On va démarrer avec nos amis du lycée technique et hôtelier. Bonjour Mélanie, ça va ?
T'es en forme ? Oui, ça va.
Alors qu'est-ce que tu veux savoir ?
J'aimerais savoir si une femme enceinte porteuse du VIH, est-ce qu'elle transmet obligatoirement à son enfant le virus ?
Le virus du sida. Réponse ?
C'est ce qu'on appelle la transmission materno-fœtale. Ça dépend dans quel continent, dans quel pays on se place. Mais même en l'absence de traitement de la maman, une femme enceinte, au maximum, ne transmet le virus que dans 30% des cas à peu près. En général, c'est au moment de l'accouchement ou dans les semaines qui précèdent l'accouchement. Et le risque dans certains pays où les femmes ne sont pas traitées, c'est que l'enfant peut être contaminé soit pendant l'accouchement, soit après pendant l'allaitement. Mais dans des pays européanisés, c'est-à-dire médicalement développés, la mise en place d'une trithérapie chez la maman, donc d'un traitement chez la maman, rend quasi inexistant le risque de transmission à l'enfant, puisque c'est moins de 0,5% des cas. Et la grossesse devrait être un événement qui oblige, ou en tout cas qui fasse conseiller fortement aux femmes de se dépister, parce que être dépisté au moment de la grossesse est très important, justement pour pouvoir mettre en route un traitement, et justement pour protéger l'enfant.
Princesse Stéphanie, nous parlions il y a quelques instants de l'ONU SIDA. Quel est le rôle d'une ambassadrice à travers le monde ?
C'est très varié. Je veux dire, au départ, quand l'ONU SIDA m'a demandé donc de les rejoindre, c'était le docteur Peter Piot, qui était aussi un des chercheurs, et qui aussi, lui, a isolé le virus. Il travaille aussi avec le professeur Montagnier. Il m'a dit que voilà, il avait vu ce que je faisais avec Fight AIDS et mon implication. Et il avait, je pense très justement, dit l'ONU SIDA a beaucoup de messages à faire passer, mais il nous manquait le messager. Donc voilà, c'est peut-être que j'ai un autre regard, peut-être moins scientifique, moins géopoliticien que peut être l'ONU, pour amener voilà les gens à réagir sur le SIDA dans les pays où je vais, notamment bon Madagascar ou l'Afrique du Sud ou dans d'autres pays. Voilà, pour sensibiliser les gens et les ONG qui sont sur place, qui travaillent, savoir que moi je travaille avec l'ONU et que je suis assez dynamique, que je m'implique complètement pour cette cause. Je crois que ça les aide beaucoup pour développer des plans ONU SIDA dans beaucoup de pays.
Et c'est d'autant plus important par rapport à la question qui a été posée où la princesse apporte un message directement, je pense, qui touche encore plus les femmes. Comme vous l'avez dit, quand vous partez en mission, en l'occurrence au Burundi, on travaille sur cette question-là de la transmission pour aider les femmes enceintes à se faire dépister et pouvoir être prises en charge en cas de séropositivité, et que c'est un propos qui est particulier et qui est entendu justement d'une manière différente.
Une autre question, Mélanie.
Oui. Est-ce que par un simple contact, on pourrait attraper le sida, par un léger contact en fait ?
Voilà. C'est pas quel léger contact.
Léger contact, mais comment ?
Alors attends, on va appeler le spécialiste des légers contacts.
Un contact sexuel, un contact traumatique, un contact...
Comme une coupure.
Juste un petit toucher, quoi.
Oui. Une coupure. Non, mais une coupure et...
Il y a que trois façons d'attraper le sida, et ça, il faut le dire et le redire. Donc là, on parle de prévention, et c'est très bien. C'est-à-dire, c'est le sang, c'est les sécrétions sexuelles, c'est la transmission materno-fœtale. Donc la transmission de la mère à l'enfant, on en a parlé. Après, c'est les sécrétions sexuelles, donc le sperme ou les sécrétions vaginales, ou le sang. Donc effectivement...
Le plus contaminant, c'est le sang.
Le plus contaminant, c'est le sang. Mais même au niveau du sang, le risque, il est infime. Mais ceci dit, quand on a un copain ou une copine ou n'importe quoi, un accident au niveau du sport ou quoi que ce soit, dès qu'il y a du sang, on doit se protéger pour donner les premiers secours et mettre des gants. C'est de la prévention. Pour un rapport sexuel, on met un préservatif. Pour un problème traumatique, on met une paire de gants. Et tous les secouristes mettent des gants. Et normalement, se protègent également les yeux pour éviter les projections au niveau des muqueuses. Mais c'est de la protection élémentaire, même si le risque, il est infinitésimal. Mais c'est la loterie du sida, on peut pas jouer à ça. C'est-à-dire que même si le risque est infinitésimal, il faut se protéger. Voilà. Et donc, on ne donne pas des premiers secours, sauf extrême urgence, où on peut pas faire autrement, sans se protéger, notamment mettre une paire de gants.
Et c'est important par rapport au simple geste, c'est que dans la vie courante, il n'y a pas de risque de contamination. On peut partager un repas, on peut vivre avec une personne séropositive sans avoir de risque de contamination dans les actes de la vie courante.
Et est-ce que c'est vrai, docteur, que l'œil, c'est un des moyens de transmission les plus perméables, en fait,
tout à fait, Altesse. Ouais. L'œil et la muqueuse buccale et notamment les amygdales sont des endroits qui sont, comme on dit, extrêmement poreux et surtout riches, très riches en cellules, comment dirais-je, inflammatoires. C'est-à-dire ces cellules qui, en fait, se contaminent par le VIH et le transmettent ensuite aux cellules immunocompétentes. Donc, il faut se protéger. Il n'y a pas que les rapports sexuels. Il faut penser même aux muqueuses. Maintenant, la peau, si vous posez un litre de sang sur la peau remplie de virus, vous ne risquez rien. La peau est une barrière naturelle contre beaucoup d'infections.
Enfin, ne le faites pas quand même.
Non, ne le faites pas.
Ouais, ne le faites pas, c'est jamais. Hein.
Mais il faut qu'il y ait une
coupure. Déjà, il faut avoir un litre de sang contaminé chez soi.
C'est interdit, normalement.
Ah oui, faut appeler en Chine. C'est un vampire, ouais. Ok, mais pas par l'œil.
L'œil, il faut qu'il y ait une projection, soit de d'un liquide sexuel ou de sang, sinon de la salive ou n'importe quoi, il n'y a pas de risque. Mais il faut du sang ou des sécrétions génitales.
Voilà.
Rien d'autre.
Salut Gabi, ça va bien ? La forme ? Ouais, bon.
Super, merci.
Qu'est-ce que tu veux savoir, mon Gabi ?
Quand on fait un test de dépistage au CDAG, est-ce que seul le VIH est dépisté ou comme au don du sang, il y a d'autres MST qui sont dépistés ?
Sur les tests rapides, pour l'instant, il n'y a que le VIH, mais sur le dépistage, normalement, on dépiste le VIH, le VHC et l'hépatite B. Voilà, mais on ne dépiste rien d'autre. Pas d'autres infections sexuellement transmissibles.
Mais ça peut être demandé.
Ça peut être demandé, bien sûr.
Après, s'il y a une prise de risque, autant tout faire. Quoi.
Autant tout faire, demander un check-up.
Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, dans un centre de dépistage, il y a ce qu'on appelle un counseling. C'est-à-dire, il y a une discussion avec le médecin dépisteur qui va sur la prise de risque, sur le type de pratique et sur ainsi de suite. Donc après, on peut tout faire. Hein. Voilà. Mais normalement, les trois grandes infections dépistées, c'est VIH, VHC, VHB.
Ça prend pas plus de temps de demander le reste.
Ah non, non.
Ça prend plus de sous, c'est tout.
Oui, sauf que il y a certains, la syphilis, ok, mais il y a certaines infections sexuellement transmissibles où il faut faire un prélèvement. C'est-à-dire, il faut faire un prélèvement sur le gland ou il faut faire un prélèvement au niveau du col de l'utérus. Par exemple, pour la gonocoxie, il n'y a pas de test. Hein. Donc, tout ne se fait pas obligatoirement, facilement et en ambulatoire.
Alors, qu'est-ce que tu penses, mon cher Bruno ? J'en profite, les autotests qui seront bientôt autorisés en France. C'est pas encore arrivé, c'est autorisé aux États-Unis, mais bientôt en France. T'as entendu parler de ça ? Les autotests.
Oui, j'en ai entendu.
C'est-à-dire qu'on pourra se tester à la maison.
Ça, c'est basé
sur... Alors, il y en a qui sont pour et contre.
T'es
quoi ?
Comme d'habitude. Moi, je suis pour si les patients peuvent avoir un accès rapide ensuite à...
Parce qu'il faut, après, il faut aller en labo, bien sûr.
Oui, pour le confirmer. De toute façon, tous les tests de dépistage doivent être confirmés par un test sanguin normal, obligatoire.
Alors, ceux qui sont contre disent, oui, mais si quelqu'un apprend qu'il est séropositif chez lui, il n'osera peut-être pas aller se faire dépister dans un labo. Il aura peur. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que ça s'adresse comme d'habitude, soi-disant, à des gens qui de toute façon ne suivent pas les filières classiques, c'est-à-dire des gens qui ne se font pas dépister dans les filières classiques, ni dans les centres de dépistage, ni dans les laboratoires. Et c'est pour ça qu'on avait fait cette fameuse journée de dépistage sur Monaco et qu'on va refaire bientôt.
Il y en a une autre prévue, Stéphanie. Hein.
Oui.
Voilà. Ouais.
Parce qu'il faut aller vers les gens.
Avant l'été.
Il faut aller.
Bah oui, au moins que les gens sachent où ils vont avant l'été.
Ouais, comme ça t'annule tes vacances après. Tu dis pourquoi je pars plus.
Non, mais tu peux quand même vivre, mais au moins tu sais que voilà, t'en es.
Mais il faut pas annuler les vacances. C'est-à-dire, le fait d'être séropositif, même si on est dépisté, c'est juste pour se prendre en charge, pour éviter de contaminer les autres et pour bénéficier d'une prise en charge. D'être séropositif, c'est pas la fin du monde au jour d'aujourd'hui. Donc même si on est dépisté avant les vacances, ça n'empêchera pas de partir en vacances en se protégeant et en protégeant les autres. Mais il vaut mieux partir en vacances en se sachant séropositif. Positif, ce qui évitera un certain nombre de soucis que de faire l'autruche, de partir et de continuer et à aller au petit bonheur à la chance.
Et plus c'est soigné tôt et mieux c'est.
Eh oui, tout à fait. Et puis, puisque de plus en plus, on va arriver au fait qu'il faut saisir vraiment le moment de la contamination pour traiter les gens. Et c'est sans doute grâce à ça qu'on arrivera de plus en plus à des résultats et peut-être à l'éradication du virus.
Oui, Gabi, autre question ?
Et est-ce que Fighthead propose des tests rapidement dans leurs locaux ?
On l'a fait et puis on peut le faire en cas d'urgence.
Tu es le responsable des tests rapides. Tu
fais tout rapide.
C'est l'infirmière, Hervé. Non, il fait tout rapide d'ailleurs.
C'était un choix justement de la princesse que de pouvoir, comme ça se fait dans d'autres pays, de sortir les tests du milieu médical. Donc nous avons fait une formation à Fighthead Monaco et nous sommes en capacité effectivement d'effectuer des tests de dépistage. Alors nous le faisons principalement lors des journées spécifiques Test in the City.
Il ne peut pas se pointer comme ça.
S'il y a une personne
qui a pris un risque, qui ne peut pas
ou qui ne souhaite pas aller au centre de dépistage, nous c'est arrivé très exceptionnellement, une personne qui était de Monaco, qui ne voulait pas aller au centre de dépistage de peur d'être reconnue, alors que la confidentialité est assurée là-bas. Hein. Donc nous pouvons répondre, mais il faut que cela reste exceptionnel, parce que ça n'est pas notre mission à nous. On renvoie d'abord vers le centre de dépistage ou dans un laboratoire, mais en cas de demande spécifique, s'il y a des arguments pour, nous pouvons, bien entendu, sous le contrôle du docteur Taillant, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un avis médical sur le bon fonctionnement de ces dépistages, mais nous sommes une équipe à Fighthead Monaco formée pour pouvoir faire les tests de dépistage à orientation rapide.
Le seul intérêt d'un centre de dépistage par rapport à l'association, c'est qu'en cas de prise de risque, le centre de dépistage à l'heure actuelle, que ce soit en France ou à Monaco, sont autorisés à délivrer maintenant la trithérapie. Post-exposition, par rapport aux urgences. Donc il y a peut-être des gens qui préfèrent, en cas de prise de risque, pour des raisons d'anonymat et autres, aller au centre de dépistage. Alors qu'au niveau de l'association, effectivement, si c'est une prise de risque, le dépistage au niveau de l'association a peu d'intérêt, puisque malheureusement, ça va déboucher peut-être sur une trithérapie. Par contre, si on veut se savoir séropo ou machin, ou ça, éventuellement, mais comme le dit si bien Hervé, c'est pas trop... au jour d'aujourd'hui, le but de l'association.
Et ce qui est important par rapport au dépistage, et ce que l'on va certainement faire lors du prochain test in the city avant les vacances, c'est de repasser un message. Il y a des personnes qui sont séronégatives, qui se savent séronégatives. Si elles viennent faire le test de dépistage, c'est aussi un rappel, et on l'a bien vu encore lors de cette journée du test, le fait de passer un test, ça réactive certaines questions, pour ne pas dire certaines appréhensions, et ça conforte dans le truc de se dire, bah, la prochaine fois, je ne fais pas le con, quoi. Je vais vraiment mettre le préservatif.
Donc, t'as compris ? T'as vu ce qu'il t'a dit ? T'as vu ça, hein ? Merci Gabi. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Bonjour, tu es affiliée. Et toi, tu viens de faire un séjour dans la maison de vie de Carpentras.
Affiliée, il faut peut-être préciser, excuse-moi Chantal, mais c'est peut-être important. Affiliée, c'est une personne qui est inscrite à Fightez Monaco et qui participe à la vie de Fightez Monaco.
Tout à fait.
En tant que personne vivant avec le VIH.
Donc Chantal, toi tu reviens de la maison de vie, mais là-bas c'était surtout pour le tabac, tu étais addict au tabac, tu fumais beaucoup,
oui,
c'est
ça ? Oui, mon premier séjour c'était effectivement pour le tabac.
C'était quand ça ?
C'était en avril de l'an dernier. En fait, j'avais arrêté pendant 7 ans et j'ai repris la cigarette, comme je le disais tout à l'heure, avec une simple bouffée de cigarette, en tirant simplement sur une cigarette sans avaler.
Ouais.
Et ça a réveillé le...
Et c'est reparti.
Le petit laboratoire dans mon cerveau. Et donc, je suis allée faire ce séjour à Fightez.
Ça a duré combien de temps ?
17 jours, très précisément.
Ça suffit, 17 jours ?
Eh bien, c'était fait en sorte, tout était bien organisé. Moi, c'était le truc, après avoir fini le stage où j'étais scotché, hein, parce que tout était fait en sorte qu'il y avait un cheminement qui faisait que moi, j'ai pu voir mes failles. Et j'ai pu toucher du doigt dans un atelier théâtre. Mon manque d'autonomie, pour moi, c'était ça le truc. Et il y avait plein de petits outils qui ont fait que... Aujourd'hui, je ne fume pas. Pour moi, c'est un miracle.
Ça y est, c'est fini.
Parce que j'ai vraiment touché un fond avec cette cigarette. C'était de la folie, tout simplement.
Voilà.
J'arrivais plus.
Depuis combien de temps tu ne fumes plus, Chantal ?
6 mois.
On peut la féliciter, même. Je pense qu'on peut même l'applaudir parce que... Parce que c'est un vrai challenge pour connaître Chantal de l'association. C'était important pour Chantal, comme d'autres personnes de l'association, qui demandaient d'être aidées là-dessus. Et c'est pour ça que ça a été choisi par la princesse de valider ce séjour-là. Et je crois que l'équipe de la maison de vie a bien planifié, bien organisé sur les temps de travail sur le tabac et les temps à côté.
Moi, j'ai été prise en charge du début à la fin. Alors, sur le moment, je ne comprenais pas trop. C'était hyper intensif. Et c'est après que j'ai compris, en réfléchissant, en méditant sur le truc, que tout avait un sens et que tout suivait, en fait.
Donc, t'étais bien encadré, ça a marché là-bas.
Et la nourriture.
La nourriture d'enfer. Elle a pris 10 kilos. Bon, c'est bien. Bruno, est-ce qu'on a beaucoup d'addictions quand on est malade du sida ?
Oui, c'est ce que j'allais dire, et c'est tout à l'honneur de l'association. C'est-à-dire que l'association a essayé de développer ses séjours à thème. Puisque que ça soit le tabac ou que ça soit la nutrition, c'est quand même les deux priorités quand on est séropositif. Puisque j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que ça passe au-dessus de beaucoup de monde, les causes de décès actuelles des séropositifs, c'est plus les maladies infectieuses, c'est plus ce qu'on voyait avant, c'est plus ces fameux syndromes de Kaposi, c'est plus tout ça.
Ouais.
C'est le cancer, notamment le cancer du poumon, et c'est les maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire, c'est des sujets jeunes qui font des paralysies, c'est des sujets jeunes qui font des infarctus, et c'est des sujets jeunes. Donc quand on est séropositif encore plus que d'autres, il ne faut pas fumer, il faut arrêter de fumer et il faut bien se nourrir. Donc tout ce qui est éducation, c'est très important. Et je pense que le séjour sur la maison de vie, sur les addictions en particulier tabagiques, a été très profitable à certains d'entre vous. Et même si ça n'était profitable qu'à une seule personne, c'est déjà ça de gagner.
Alors oui, que justement, nous avons eu de très bons résultats, puisque 40% sur le premier séjour ont arrêté ou réduit le tabac. Oui, ce qui est énorme par rapport aux résultats. Donc c'est presque inespéré. Quoi.
Stéphanie, il faut monter une autre maison à côté pour les dépendances. Le tabac, une autre maison pour l'alcool, et tout va, et puis on va se calmer.
La maison de vie, elle est très bien comme elle est.
Oui.
C'est un cocon, et il ne faut pas l'agrandir, il faut la laisser comme elle est. Elle est belle comme elle est.
C'est vrai.
Ce sont des séjours d'incitation d'arrêt au tabac. Ne nous trompons pas. Donc, il se trouve que Chantal, c'est un petit peu aussi pour ça que nous l'avons choisi, parce qu'elle, elle a arrêté depuis plusieurs mois. En tout cas, je pense à Denis quand il est revenu, qui est un autre affilié. Il a dit, je ne sais pas si je vais arrêter, mais grâce à ce séjour, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui que je suis capable et que le séjour m'a permis de me redonner confiance dans ma capacité à m'arrêter. Et il se trouve qu'il a arrêté, je ne sais plus, Chantal, depuis...
Est-ce qu'il y a des séjours pour l'incitation à arrêter le sexe? Je pense à Nicolas Soussier.
C'est un autre domaine.
Ça, on ne fait pas, non.
Pas encore, mais c'est pas arrivé.
Non, surtout pour lui, je crois que c'est un peu désespéré.
C'est trop tard, ouais.
On n'a jamais dit que le sexe était mauvais, hein, Malher.
C'est excellent.
T'écoutes pas, en fait.
C'est excellent.
Est-ce qu'il est jaloux?
Et voilà.
Bon, ben non.
Le sexe est conseillé avec protection.
T'es bien là pour en parler, mon cher Bruno. La meule est gênée, là.
Nous parlons de sexualité à Faïtès Monaco. Les personnes en parlent. À la maison, c'est une maison de vie. Donc, il y a des moyens pour se protéger pour les personnes qui, éventuellement, peuvent avoir des rencontres lors de leur séjour.
Eh bien, voilà. OK, les amis.
Il manquerait plus que ça que chez nous, il n'y ait pas des moyens de protection.
ça serait le à l'association, il y a...
Ouais, parce que s'il faut aller dans une pharmacie à Carpentras, ça ferme tôt, hein.
La magie de la vie fait qu'à l'association, il y a des personnes qui se sont rencontrées, qui sont en couple aujourd'hui, depuis plusieurs années.
Ça fait moins de rencontres aussi, alors?
Justement, non, ça n'est pas l'objectif de l'association, mais nous sommes dans la vie, et comme partout ailleurs, il y a des gens qui se rencontrent, et il y a des couples qui se sont formés.
Eh ben voilà. Bonjour Julia, qu'est-ce que tu veux savoir?
Est-ce que le mensonge sur la séropositivité,
oui,
envers une petite amie ou autre, est condamné par la loi?
Eh oui, voilà, c'est-à-dire tu fais l'amour avec quelqu'un alors que sachant séropositif, ouais.
Bah, il y a eu des cas, oui, où c'est passé au tribunal, notamment, je pense, c'était à Strasbourg, dans le Nord.
Oui,
quoi.
Alors, ouais. Il a été démontré que la personne avait caché, avait dissimulé. Donc, l'important, c'est de se protéger. Comme ça évite au début de se poser des questions que l'on n'ose pas forcément aborder lors d'une rencontre. Après, s'il y a intention de contaminer l'autre, bien sûr que là, il peut y avoir condamnation. Et il y a eu certaines fois
Il y a eu certaines condamnations parce que la personne en question, enfin, je crois, avait exigé des rapports non protégés, sachant son statut sanitaire. Donc c'était ça qui était condamnable, quoi.
C'est l'acte, c'est empoisonnement, c'est ça?
C'est presque homicide involontaire.
Je ne sais plus, mais en tout cas, il y a des textes prévus pour ça, puisque là, il y a intention de mal faire.
C'était
de nuire,
empoisonnement,
voilà.
Empoisonnement, ouais. Tout à fait. Ouais.
Mais autrement, l'intérêt de la condamnation n'a pas de sens, parce que ça risque d'aller à l'inverse du dépistage. Si une personne ne se sait pas séropositive et qu'elle contamine, on ne va pas pouvoir la condamner, parce qu'elle va dire « moi, je ne le savais pas ». Alors qu'on est dans l'inverse, de conseiller à toutes les personnes de passer un test pour savoir si elles sont séronégatives ou séropositives. Et on sait bien que les personnes qui découvrent leur séropositivité se protègent beaucoup mieux quand elles savent qu'elles sont séropositives. Donc après, il y a toujours des gens, des malades ou des fous, qui vont peut-être le faire malencontreusement.
Princesse Stéphanie, la législation à travers le monde est parfois très dure envers les séropositifs. On sait que aux États-Unis, depuis belle lurette, c'était interdit de pénétrer sur le territoire américain jusqu'en 2010. C'est Barack Obama qui a levé cette interdiction. C'est quand même très difficile dans ces cas.
Oui, c'est très difficile et c'est complètement contradictoire, sachant que en fait, l'épidémie est un peu partie des États-Unis. Pour moi, c'est complètement incompréhensible. Et puis alors, l'herpès, c'est beaucoup plus contagieux et ou d'une grippe et on laisse rentrer les gens. Il y avait même des séropositifs qui travaillaient à l'ONU SIDA et qui ne peuvent pas aller aux réunions de l'ONU SIDA à New York parce que justement ils ne pouvaient pas avant aller aux grandes réunions de l'ONU SIDA ou aux assemblées générales parce qu'ils étaient séropositifs eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas transporter leur traitement dans leur valise. Donc je pense que c'est complètement arriéré et ça passe à place et vive Barack Obama, hein, franchement, parce que c'était quelque chose de complètement absurde.
Il y a une suppression en 2010 donc, de cette interdiction.
Mais... Il reste encore beaucoup trop de pays, je ne sais plus combien, mais il reste encore beaucoup trop de pays qui interdisent.
Il y a l'Arabie Saoudite déjà.
Oui, il y en a pas mal, je ne sais plus. Il y en a d'autres aussi qui interdisent, par exemple à l'île Maurice, qui demandent un certificat de séronégativité pour une embauche professionnelle.
À l'île Maurice.
En l'occurrence, hein, ce n'est pas le seul, je pense, ce pays. Je ne veux pas, pas plus cibler celui-ci qu'un autre. Il y a encore trop de pays où la législation est en défaveur.
Nous, on l'a bien vu, même à Madagascar, où les associations de lutte contre le sida, ils sont carrément clandestines, ils sont cachés. Hein.
Oui.
Parce que c'est forcément associé à l'homosexualité. Il y a encore beaucoup de pays africains encore où les homosexuels sont passés à tabac, où les séropositifs sont passés à tabac, sont battus. Donc, je veux dire, à la limite, là, c'est compréhensible de cacher sa séropositivité parce que sa vie en dépend. Mais c'est vrai que, après, ça, c'est des questions culture et sociale. Mais bon, condamner les gens parce qu'ils sont séropositifs, c'est complètement absurde.
Voilà l'un des rôles de l'ambassadrice de l'ONU SIDA, que la princesse, quand elle est allée à Madagascar, ça permet de porter cette parole et, en l'occurrence, le président de la République avait reçu, pour la première fois après avoir rencontré la princesse, avait reçu les associations de lutte contre le sida.
Et bien voilà.
C'était lors d'une des premières missions.
Belle chose. Salut Dounia. Toi, tu fais un petit stage à Faïtez.
Pas petit, un stage.
Un stage énorme.
Ah oui, un stage.
Combien de temps?
4 mois au moins.
4 mois.
Un petit peu plus parce qu'elle reste avec nous jusqu'au gala.
Pourquoi tu es venu à Faïtez comme ça? Qu'est-ce qui t'a décidé? Tu viens de Montpellier, hein?
Exactement. En fait, à l'origine, j'avais postulé à la direction de la coopération internationale monégasque.
Ouais.
Et c'est eux qui ont fait passer mon CV à Faïtez.
Merci à la COPE.
Ouais, bravo.
On bosse bien avec eux. Merci à eux parce qu'ils nous ont envoyé Dounia.
Et donc, en fait, au final, je suis bien contente d'avoir atterri à Faïtez parce que ça m'a permis d'être dans une ONG plus petite et du coup d'avoir un contact humain plus direct avec les gens et puis d'être plus proche de tout le monde.
Mais est-ce que c'est difficile, Dounia? Parce que toi, tu arrives, tu suis des dossiers et puis d'un seul coup, on te demande, comme le week-end dernier, pendant la Formule 1, de faire des crêpes.
Exact, non, au contraire.
Tu vas faire bretonne bientôt.
Non, quand même pas.
Non, pas encore.
Nous l'avions prévenu lors du recrutement.
Tu vas tout faire.
L'avions dit, il y aura des dossiers, mais aussi on est une petite équipe, donc il faut mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire.
C'est ça. Mais c'est tout l'intérêt.
Mais c'était cool la Formule 1. Vous avez ramassé des sous, les enfants?
Ouais. Oui, bien. On a bien travaillé. Nous avons eu la chance, alors malheureusement pour le Grand Prix, mais il y a quand même eu 2 accrochages. Et donc ça nous permet, nous, de travailler parce que là, les spectateurs, ils viennent manger, ils viennent boire.
Il y a ça, puis la pluie aussi.
Ouais. Alors la pluie, nous avons vendu toutes nos capes. Ça nous a arrangé aussi.
Voilà, donc il faudrait qu'il... L'année prochaine, s'il vous plaît. Oui.
Non, mais nous préférons le soleil.
Non,
c'est quand même mieux le soleil.
Non, pas d'accrochage, ça peut être très dangereux.
Et puis pas d'accrochage non plus.
Ouais, Dounia, est-ce que le fait de travailler pour Faïtez, ça a changé ton regard sur le sida? Tu savais ce que c'était? Ou sur les pratiques sexuelles en général?
J'étais assez au courant de tout ce qui touchait au sida parce que j'avais une professeure qui travaillait dans ce domaine-là.
Ouais.
Mais autrement, c'est vrai que ça a vraiment mis l'accent sur l'importance de la prévention. Enfin voilà, je vois vraiment que dans les lycées, dans l'université en France, on manque vraiment de prévention. C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, j'avais jamais vraiment eu de cours sur la prévention, d'informations vraiment concrètes sur ça.
Et vous allez la garder après ou quoi? Vous voulez
Dounia est en stage jusqu'au 5 août, puisque le 5 août, c'est notre soirée de gala. C'est l'occasion de passer le message.
5 août, soirée de gala, ça se passe où?
Ça se passe au Sporting d'été. Avec qui?
Avec Garou.
Garou, la
fameuse voix Garou.
Ouais, la grosse voix, oui.
Donc, vous pouvez dès à présent vous réserver vos places en vous inscrivant ou en vous connectant à la SBM, en appelant la SBM.
Okay. Pas Faïtez, Monaco. Merci Dounia. Bonne chance, bravo.
Merci.
On a avec Dounia. Nous, elle est au téléphone, les amis. Elle s'appelle Anne Boufergen. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Un mal qui ne se dit pas. Bonsoir Anne.
Oui.
Bonsoir. Vous êtes en direct depuis le lycée technique et hôtelier avec toute l'équipe de Faïtez et la princesse Stéphanie. Anne, je crois que quand vous avez sorti votre bouquin, l'éditeur a dit qu'il faudrait contacter Faïtez Monaco. C'est vrai ça?
Tout à fait. Et puis il y a eu un petit loupé sur le cheminement du livre qui n'était pas arrivé pendant la promo. Il s'est perdu, c'est entre la France et Monaco. Il faut croire que des fois, il y a des petites barrières. Mais ça se fait
incroyable.
C'est pas très grave parce que ça reste d'actualité. Et là, j'ai un sujet,
mais bien sûr,
je suis souvent d'actualité.
Vous apprenez que vous êtes séropo en 88. Vous n'aviez alors que 15 ans. Est-ce qu'on vous a dit tout de suite que c'était le sida?
Alors, quand même, il y avait un petit peu de délicatesse hospitalière où on disait vous êtes séropositif, hein, on ne dit pas, mais on me l'a dit tout de suite, oui. On m'a dit tout de suite que j'étais séropositive. La personne qui avait procédé à ce test sans me le dire, ce qui est interdit d'ailleurs aujourd'hui, rétrospectivement, elle m'a protégée puisque j'ai pu être prise en charge. Elle a eu le résultat, c'était ma gynécologue, elle m'a dit vous êtes porteuse du virus du sida, oui. On n'a pas attendu que j'ai 25 ans, voilà.
Anne, le traitement à l'époque, c'était quoi? C'était la ZT?
C'était rien.
86, il n'y avait rien. C'est 87, la ZT.
En 88, la ZT avait commencé à arriver. Il
c'est ça,
donné plutôt
c'est
à
très lourd. Hein.
89. Mais il faut savoir qu'il était donné à des patients dans des phases plutôt avancées de la maladie. Moi, il n'y avait rien. Donc, voilà. Il n'y avait pas de traitement.
Et donc là, Anne, vous en parlez à personne. Hein.
Pendant 22 ans. Donc ça a duré assez longtemps, ce silence.
Même si vous aviez des petits amis de passage, enfin de passage.
Alors,
aussi
j'ai eu,
plus longtemps.
J'ai eu, par définition, du coup, très peu de petits amis. J'ai eu un mari qui savait bien sûr ma séropositivité, que je me suis mariée assez
d'accord.
tôt d'ailleurs. Et puis nous sommes séparés et j'ai un compagnon qui est le papa de mes enfants, qui bien sûr dès le départ a connu ma séropositivité. Donc j'ai eu 2 hommes dans toute ma vie, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc je suis presque sage. Qui savait bien sûr ma séropositivité, et autrement, mes parents étaient au courant depuis le départ, mais c'est un sujet que je n'évoquais avec personne.
Mais dis-moi, au début, vous refusez de prendre le traitement. Vous refusez complètement la maladie, c'est vrai, ça ?
En fait, j'ai pas refusé la maladie parce qu'elle s'est imposée et j'acceptais d'être à l'hôpital. Il se trouve que moi, lorsqu'on a voulu me mettre sous traitement, donc sous AZT, j'étais en terminale. Et à l'époque, les doses d'AZT que l'on donnait étaient telles que les personnes étaient invalidées. Elles ne pouvaient plus exercer leur métier, elles ne pouvaient plus travailler. Alors moi, je m'étais juste dit, je veux bien, entre guillemets, vivre cette tragédie, mais je veux vivre pendant les années qui me restent à vivre. Et si je ne peux pas passer mon bac, ça ne sert à rien la vie.
On a en même temps que nous, autour de la table, on a Chantal qui est avec nous, qui est un peu dans le même cas que vous, Chantal. Et Chantal a lu votre livre, c'est ça, Chantal ?
Ouais, ouais, ouais. Bonjour.
Bonjour.
Oui, j'ai lu votre livre et je me suis pas mal identifiée dans le ressenti. Moi, j'ai été contaminée en 85.
Et donc, à ce moment-là, Anne, vous vous battez. Vous dites, c'est pas grave, vous êtes championne de France d'escrime, étudiante, directrice générale des grandes sociétés.
Est-ce que ça a été, j'ose pas dire un ressort parce que ça serait pas bon, mais est-ce que pour vous, cette information-là vous a d'autant plus rendue combative dans cette interdiction de parler aussi?
Oui, ça a démultiplié une énergie de vie. Alors je crois que quand on a comme ça une tragédie, quelle qu'elle soit, assez jeune, là, soit on verse d'un côté un peu mortifère, soit on verse dans une énergie de vie. On ne sait pas pourquoi, hein. C'est une chance. C'est pas quelque chose de, on ne se dit pas d'un seul coup, je vais vivre pleinement. On se met à vivre à 100 à l'heure et sans savoir quel est le ressort de ça. Et j'ai eu cette chance, voilà. Et donc moi, j'aime la vie et j'ai voulu vivre pleinement, mais j'ai voulu vivre pleinement aussi avec des codes de société qui effectivement étaient à l'envers de ceux de la maladie. Donc j'ai voulu montrer que j'étais peut-être séropositive, personne ne le savait, mais j'allais me montrer à moi-même que je valais quelque chose d'autre que ce qu'on associait à la maladie. Tout ce parcours un
mais
peu
si, si je peux,
normé.
Comment vous êtes débrouillée? Parce qu'on sent bien qu'il y a eu ce moteur et que vous dites que vous-même, vous avez voulu vous prouver ça. Vous étiez jeune, vous aviez 15 ans, où vous alliez passer le bac. Qui vous a aidé? Où vous avez trouvé cette force aussi? Parce que seul le poids du secret, on sait que c'est très lourd, que ça peut être handicapant. Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce qu'il y a eu,
oui,
je ne sais pas, une équipe?
Bien sûr, c'est l'entourage familial et mes parents. Parce qu'on n'en parlait pas, hein. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout explicite.
Oui.
Parce que moi, je ne voulais pas qu'on en parle. C'était mon affaire. Et mes parents, je trouvais que je leur avais amené finalement une chose tellement déceptive pour eux que je voulais rattraper que j'ai appelé dans mon livre, ce qui est horrible, mais cette faute, comme si être contaminé, c'était une faute. Mais en tous les cas, je l'éprouvais comme ça. Bien sûr, c'est horrible.
Ouais, ça vous a pas empêché, Anne, de faire une brillante carrière. Mais dis donc, vous dites aussi dans votre bouquin, vous êtes une survivante. 6% des personnes contaminées à cette époque ont survécu seulement.
Ça. Nous sommes des survivantes de l'épidémie.
Et ouais.
Sur ma famille, j'assiste sur mes parents, que je crois que quand on lit le livre, on voit à quel point je les aime. Nous avons très peu parlé de ma maladie. Ouais. Le fait qu'il m'ait laissé vivre cette vie, prendre toutes ces initiatives, jamais juger. Quand je refuse le traitement, vous vous rendez compte, votre gamine, elle va mourir, parce que statistiquement, elle allait mourir. Il y a un traitement, elle le refuse. Vous êtes parents, vous faites quoi? Mes parents,
c'est
vous
ça.
Laissez faire.
Est-ce que...
Il y avait un respect par rapport à... Oui, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais
ce respect...
On ne vous juge jamais, même dans des décisions aussi lourdes que ça, on ne vous juge pas, on est là pour vous accompagner dans cette vie, quelle que soit sa durée.
Vous avez donc dit 22 ans, et qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 22 ans, moi je me dis 22 ans avec le poids du secret, j'ai presque envie de vous dire chapeau, alors que je suis, comment dire, un défenseur de la parole, et je pense que le secret n'est pas bon. Et qu'est-ce qui vous a finalement incité à non seulement en parler, mais écrire un livre?
Alors attendez,
là c'est la sonnerie de l'école.
Bruno, faut que tu éteignes ton portable là. C'est un peu fort comme sonnerie. Hein.
C'est la sonnerie de l'école.
Oui,
vous voyez que c'est confortable à Monaco, les sonneries de l'école.
Ouais, on est un peu sourd ici, alors on met des.
Pousse les mains. La première, j'ai fait ce parcours en me disant qu'un jour, comme je serais fière de moi, je pourrais enfin dire que je suis séropositive. Je savais que je dirais, voilà. Mais il fallait que j'aie abouti quelque chose, que je sois suffisamment sûre de ce que je suis pour pouvoir faire en sorte que si je pouvais supporter le regard des autres, il fallait que je sois suffisamment forte moi-même. Ça, c'est la première chose, mais ça, je ne savais pas quand. Et la deuxième
chose, c'est intéressant parce que vous l'avez amené comme un parcours de vie,
c'est ça.
Votre livre. C'est pas sur le sida, c'est sur votre réussite en tant que femme.
Voilà. Ouais, je voulais savoir, est-ce que vous prenez toujours un traitement aussi lourd au bout de...
Alors moi, je le prends assez lourd parce que comme je suis une vieille séropositive, je suis en prithérapie depuis maintenant 15 ans.
Ça n'a pas été allégé, non, il n'y a pas de... pour les personnes.
Alors, les personnes qui sont récemment contaminées, ont des formules de traitement en une prise, très élaborées, etc. Moi, j'ai développé, comme certainement Chantal autour de la table, énormément de résistance au traitement, parce que les premiers traitements n'avaient pas la qualité de ceux d'aujourd'hui, donc on développait énormément de résistance, si bien qu'on ne peut pas être traité tout à fait comme les jeunes séropositifs. Bon, ben, j'ai envie de dire, quand on pensait mourir, qu'on a 40 ans et qu'on a cette force de vie, c'est pas très grave. Ouais. Je prends 10 pilules par jour, j'ai quelques effets secondaires, mais c'est si peu au regard de cette chance que j'ai eue d'être jusque-là.
Ouais. D'être Il faut rappeler, Anne, aussi que tous les droits d'auteur vont aux associations qui luttent contre le sida. Hein.
C'est ça.
Donc voilà.
Je ne voulais pas m'enrichir sur ce propos.
C'est bien.
Merci en tout cas pour cette énergie que vous témoignez et ce témoignage que vous faites au travers de votre histoire et qui réconforte beaucoup de personnes.
Voilà, elle s'appelle Anne Bouffergen, les amis. Un mal qui ne se dit pas, c'est chez Robert Laffont. Merci Anne.
Merci,
on croit qu'on peut l'applaudir.
Bientôt.
Bravo. Zaza est avec nous. Salut Zaza.
Salut Maëlle.
N'oublie pas de nous laisser une photo de toi.
Je crois qu'il est amoureux, Zaza.
Qui aime bien, châtie bien, non ?
Tu es contente de ton foyer ?
C'est que de l'amour.
Ah bah écoute, là c'est parfait. C'est
de quel foyer tu parles ?
Ça change un peu.
Mais on est
là
chez Zaza ici.
Ah, j'ai eu peur. Je croyais que c'était l'autre, je croyais que c'était chez toi.
Non, je parle de son foyer professionnel, du foyer socio-culturel.
Socio-éducatif, ouais. Bah c'est parfait.
C'est un peu mieux que le précédent.
Bah déjà, j'ai les deux locaux qui sont en enfilade et donc c'est bien plus convivial que.
On a vu tout à l'heure Fred jouer au baby-foot, Altesse. Avec les petits jeunes, il s'est pris une trempe. Mais
je voulais revenir sur Bill Gates, le beau milliardaire qui propose, il offre 100 000 dollars à celui qui proposerait un projet viable de préservatif nouvelle génération. Parce qu'il dit, souvent dans les capotes, il y a un manque de motivation des hommes au moment de mettre le latex et ça diminue le plaisir. Donc il pose la question, est-ce possible de développer un produit sans ce défaut qui pourrait augmenter le plaisir et avec un emballage plus facile à ouvrir. Est-ce que tu penses que ça peut exister ? On a parlé d'une capote en forme d'accordéon.
En forme d'accordéon, mais...
Tu l'as vu, ça ?
La musique, il y a... l'air ou pas ?
Oui, à la musique qui arrive après.
Il y a plusieurs...
Ça s'appelle le couinage.
Voilà. Il y a plusieurs modes de préservatifs, et d'où l'intérêt d'essayer différents préservatifs pour trouver celui qui convient le mieux. Ta question sur l'utilité, il y a déjà eu des préservatifs qui ont été faits, certains ou pour le dérouler
ça
dans le bon sens.
Ça n'a pas marché.
Il y en a un sur Monaco, précisément, il y a, je ne sais plus, 10 ou 12 ans, qui permettait de le poser beaucoup plus facilement. Et puis, bah,
ça n'a pas marché.
Ça n'a pas pris.
Donc, est-ce qu'il y a des monopoles dessus aussi ?
Aussi, bien sûr.
Voilà. Il y a les grandes marques. Ouais.
Mais oui.
Ah, c'est ça, d'accord.
Mais bon, peut-être que les grandes marques vont faire un effort si
il faudrait peut-être. Je pense que c'est le grand reproche qu'on dit souvent à propos des capotes, c'est que des fois ça sert trop.
C'est la peur de tous les médecins.
On a du mal
que ça sert trop. Mais en fait, il faut simplement trouver la bonne taille qui convienne. Après, il y a des différentes tailles. Je pense que c'est important de
ça. Il ne faut pas être prêt.
C'est important de saluer l'initiative de la Fondation Bill Clinton, qui quand même est très engagée dans la lutte contre le sida. Donc c'est bien de voir des hommes d'affaires qui mettent de l'argent pour ce combat-là qui est important.
Oui,
il faut dire aux hommes de ne pas avoir peur que ça sert trop, parce que le fait que ça sert à la base, ça maintient l'érection.
Ah, j'avais pas pensé à ça. Il faut que ça sert à la base alors.
Il ne faut pas que ça sert trop, mais si ça sert à la base, ça maintient l'érection, oui.
Ah, bah tu vois,
c'est un bon argument.
C'est un docteur, on peut le dire.
Non, mais c'est souvent une raison. Les mecs trouvent des raisons pour ne pas mettre le préservatif. Soit ça les sert, soit ça les fait déborder.
Ouais, il y a eu un petit accident, ils n'ont pas réussi.
Un petit peu de pratique, un petit peu d'habitude, et puis la confiance de la partenaire.
Si toutes les filles disent pas de préservatif, pas de câlin, ils vont vite apprendre à le mettre.
Voilà, une très bonne phrase. Le gala de l'âme phare aussi.
Vrai,
ouais.
Bah, oui, mais à l'inverse, si toutes les filles disaient bah, « moi je t'aide et viens on s'éclate à le mettre », il y aurait moins de problèmes.
Voilà.
Normalement, ça se fait à deux. Voilà.
Oui.
Parce que manœuvrer tout seul dans le noir, facile.
Et c'est l'occasion de dire...
Il y en a des fluos, si tu veux.
Ouais, c'est vrai que je suis myope en plus. Ouais.
C'est l'occasion de rappeler aussi qu'il n'y a pas que les préservatifs masculins. Il y a aussi les préservatifs féminins.
Oh, non, les nids de chauve-souris là.
Les préservatifs féminins, Malher.
C'est une horreur.
Mais pour les mecs qui ne peuvent pas porter de préservatifs, au moins, ils auront des rapports protégés.
Merci pour les filles, parce que franchement.
C'est plus facile pour vous de les mettre. En plus, vous pouvez le mettre à l'avance.
C'est pas facile à mettre et c'est encore moins facile à enlever.
Il suffit de souffler.
Oui, mais c'est plutôt que de ne pas avoir de câlin.
Et pourquoi c'est
mais pourquoi c'est les mecs qui devraient
Non non, mais c'est, je dis, on fait je tout le propose boulot, comme alternative.
À chaque fois, ça, c'est terrible quoi. C'est...
Ça se voit que c'est un mec.
Mais ça, c'est bien quand même qu'il
a demandé. C'est un mec
qui nous aussi.
Ah oui.
Voilà. Ça c'est nouveau.
Chacun sa part de responsabilité. Et puis voilà.
Princesse Stéphanie, justement, la rumeur qui dirait que plus un préservatif est cher et plus il est efficace, c'est faux puisqu'on peut en trouver des très bons en distribution gratuite, notamment à Fighted.
Tu confirmes?
Oui, non, c'est complètement stupide. C'est peut-être bien un des objets où cette chose de...
On dit que les plus chers sont les plus fins, on peut choisir.
Non, mais je crois que maintenant, mais justement, les gros fabricants ont fait tellement d'efforts pour rendre ça ludique, justement, et ils ont une grande gamme de produits, donc il faut s'y intéresser, il faut prendre le temps de choisir et pas avoir honte, justement, d'aller dans des pharmacies ou dans des supermarchés, de bien choisir son préservatif. Il n'y a aucune honte à avoir. Du moment qu'il y aurait cette barrière qui va partir, que les gens, ils sont encore tout gênés d'aller acheter des préservatifs. Au contraire, c'est des gens responsables. On le voit, même ils font des publicités à la télé maintenant, où c'est amené d'une manière ludique. Et c'est un comportement responsable que d'aller acheter ces préservatifs. Et je crois que les fabricants, ils font l'effort justement pour rendre ça moins rébarbatif. Ça commence à rentrer dans les mœurs, mais il faut qu'après, c'est encore une fois le regard de la société, le regard des gens qui tuent aussi bien le regard qu'ils ont sur les séropositifs et les regards qu'ils ont maintenant sur les gens qui achètent des préservatifs. Au contraire, je trouve qu'on devrait les applaudir, ceux qui achètent ça, et tranquille. Voilà, c'est ridicule de juger quelqu'un parce qu'il achète des préservatifs. Au contraire, il faudrait le féliciter, je pense.
On voulait saluer aussi le gala de l'AMFAR pendant le Festival de Cannes. Ils ont réuni 25 millions, plus de 20 millions, 25 millions d'euros.
De dollars.
Dans la lutte contre le sida. C'est
ouais,
quand même pas mal.
Il faut nous en donner un petit peu à Fighted.
Alors Stéphanie, vous allez peut-être y aller l'année prochaine? Non.
S'il me donne une partie de ce qu'il récolte. Ouais.
D'accord. Bon, bah.
Stéphanie... Oui, pourquoi c'est pour toutes les autres associations, pas un peu pour Fighted aussi.
Stéphanie ou Gala de l'Amfar, peut-être l'année prochaine.
Non, je me dis ça. Non, d'abord, je négocie. Non, j'y vais pas juste pour aller là-bas. Hein.
Juste pour la thune, alors. Oh.
Bah oui.
Ouais, il faut. Bah, donc,
un
c'est
million
vrai qu'il
deux
faut.
Quand même pour aller dans l'espace avec Leonardo DiCaprio. Hein.
Ouais, c'est pas mal, hein.
La vente aux enchères. Tu serais allé à vous. Hein.
Oh, moi, je vais n'importe où. Mais dis donc, alors attention, les amis, on va revenir avec Zaza et Cynthia, les déjeuners.
Branchés.
On va parler aussi de.
Des distributions. Aidez-le, là, parce qu'il a une absence.
Il est en train de ramer, il devrait être couché à cette heure-là. Des distributions de capotes et d'alcool test sur les plages.
Oui.
Au Laroto. Alors, Cynthia. Cynthia, hello. Toujours Trista. Tu es à l'origine des déjeuners branchés. C'est vrai, c'est toi qui as eu l'idée, Cynthia.
Oui.
On m'a dit ça. Comment c'est arrivé?
Ben en fait, j'ai eu un premier cours d'éducation sexuelle.
Il y a longtemps, hein.
Comme ça, au collège, voilà. Mmh. Et en fait, j'ai posé une question toute simple parce que ben, je suis de nature assez curieuse.
Ouais, ben,
je me suis fait complètement chambrer par.
C'était quoi la question? Tu t'en souviens?
Ben c'était une question sur la fellation. Voilà, si ça pouvait se contracter.
Tu peux la poser à Malher si tu veux la question.
Mais non, je suis pas sûr qu'il suive.
Mais non, je suis pas sûr.
Non, mais tu as répété. Là, ouais. Cette fois, Malher.
T'as fait la quoi? Je sais pas ce que
tu veux savoir.
Non, ben voilà.
Mais il a pas pris les lunettes pour les lire, les fiches.
Ça me dit quelque chose. J'ai entendu ça au Sofitel.
Non,
donc
voilà,
c'est mieux comme
gros,
ça.
J'ai posé une question simple et je me suis fait chambrer, notamment par sexe opposé. Hein,
pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disaient?
Ben, parce que, je sais pas, ils ont un stéréotype. Hein, ça y est, elle pose la question.
Ça l'intéresse.
Voilà, ça intéresse.
C'est une cochonne.
Voilà, une fille facile. Voilà,
une fille facile, ouais, on peut le dire. Ouais.
Et en arrivant au lycée, donc on a eu droit à un cours d'éducation sexuelle. Et de nouveau, en fait. Ça a été même mentalité quoi quelques
pareil.
Années après. Je me suis dit que ça serait peut-être bien en fait de créer quelque chose où les filles seraient d'un côté, les garçons de l'autre et pouvaient librement poser leurs questions.
Mais pourquoi ça a lieu une fois par an? Je comprends pas.
Comme ça, c'était pour.
C'est pas beaucoup.
En France. Après,
D'abord, il faut le personnel pour faire ça. C'est déjà des personnes disponibles pour venir.
Bah, c'est
et
la
puis
Croix
dans
Rouge,
un planning.
Mais ça va pas.
Non, c'est
la
pas
Croix la Croix Rouge finance.
La Croix Rouge finance. La Croix Rouge finance, ouais.
Lis tes fiches, Malher.
Mais ça y est, justement, la Croix-Rouge finance, mais c'est vous.
Fighted Monaco, avec des personnes du lycée technique, en l'occurrence Zaza, cette année l'assistante sociale, anime ces déjeuners. Mais surtout, ce qui est avant tout, c'est le planning de l'année scolaire. Les professeurs, ils ont un planning à suivre. Et si on venait toute l'année, Zaza, ça serait difficile.
Ça poserait des soucis, effectivement.
Alors, question, pourquoi séparer les filles?
C'est déjà beau quand on y arrive à le faire, quoi.
Pourquoi séparer les filles des garçons? C'est quoi le problème?
Le but, c'était ça, c'est que les filles, notamment, parce qu'elles posent moins de questions que les garçons.
Quand les mecs sont là, elles
n'osent
pas.
Parce qu'eux, ils posent une question, ça y est, c'est les kékés de la
classe. Ce sont pas les mêmes questions.
Ouais, on est fan et tout, alors qu'une fille, on la voit différemment, quoi. Et du coup,
c'est dommage.
Là, c'était l'occasion, autour, on a un resto d'application. C'était l'occasion de se retrouver devant un petit déjeuner branchés, donc dans un cadre moins strict.
Au resto, le cordon d'or, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Le fameux.
Vous parlez de quoi ? De la prévention de... Du VIH, de quoi ? Des IST de...
Ben, on parle un petit peu de tout ça, en fait. On essaye d'instaurer en fait, un dialogue entre tous les personnes présentes à la table. À peu près, c'est 6 à 7 personnes maximum. Donc 6 élèves plus un animateur par table. C'est des petits groupes en plus, tu vois. C'est séparé, les filles et les garçons, et en plus, c'est par petits groupes.
On dit que les filles sont plus authentiques, elles posent des vraies questions, alors que les mecs, donc.
Oh, les mecs aussi, hein. Mecs aussi, ben là, du coup, comme il n'y a pas le sexe opposé, ouais. C'est plus facile.
Ça se lâche, ouais.
Bah oui, du coup, ça devient beaucoup plus sincère.
Ce qui est intéressant aussi, c'est avec donc les intervenants Fighted, parce qu'il y en a quelques-uns, où c'est des affiliés ou des bénévoles, ou même on a eu des gens qui étaient directement concernés par le sida.
Par rapport aux personnes qui interviennent, ce sont des bénévoles ou des permanents de l'association. Après, il y a eu certaines manifestations, je pense que tu évoques le 1er décembre, où là, il y a eu des affiliés qui ont pu vous rencontrer et parler. Et échanger avec vous. Mais lors des déjeuners branchés, à la limite, j'ai envie de dire, peu importe.
Oui.
Peu importe l'avis de la personne. Ce qui est important, ce n'est pas le statut sérologique, c'est la formation qu'ils ont eue pour permettre d'animer ces déjeuners branchés et d'apporter les réponses utiles aux jeunes.
L'avantage de ces déjeuners, c'est qu'il y a un impact beaucoup plus important sur les élèves que dans un cadre normal.
Nous, ce qui nous avait plu quand, avec Zaza, on a travaillé sur ce projet et qu'il a été soumis à l'éducation nationale, c'était le fait que ce soit dans un lieu différent et de montrer que le lycée, l'éducation nationale et l'association de la princesse recevaient les jeunes dans un contexte où on les valorisait. C'est-à-dire que c'est au cordon d'or, ça se passe pas dans une classe, alors qu'on peut faire des choses intéressantes dans la classe. Mais là, c'était parler dans un autre lieu et parler différemment. Et du coup, ils sont reçus comme des adultes, comme des personnes en tout cas que l'on estime, et on les écoute pendant ce déjeuner.
D'accord, les questions tournent uniquement sur le sida, sur les IST,
Non, pas forcément, ça c'est sur la rencontre amoureuse, c'est à partir des questions des jeunes. On essaye d'instaurer un dialogue et que les jeunes soient libres pour parler soit entre eux, l'animateur c'est un vecteur simplement, il n'est pas là pour répondre, souvent les jeunes ils ont les réponses eux-mêmes, l'important c'est de... vérifier qu'ils aient les bonnes réponses.
Cynthia, toi qui es encore jeune, qu'est-ce que tu voudrais savoir ce soir ?
Sur la fellation, t'as fini à avoir la réponse à ta question ?
Ah, tu vois,
oui, j'ai quand même réussi à l'avoir, mais bon, j'ai... Donc, en effet, lors des préliminaires et lors des fellations, comme les cunnilingus, on peut transmettre et attraper le sida.
Mais un petit risque, Bruno, tu confirmes ?
Il n'y a pas de petit risque. Moi, pour moi, il y a un risque. Il y a un risque ou il n'y en a pas. Après, petit, grand, moyen, c'est toujours un risque.
Parce que petit risque ou grand risque,
c'est toujours un risque.
Non, et puis, t'es malade, t'es malade. Hein. C'est pas la taille du risque qui va changer la maladie.
Juste une petite chose, parce que c'était en 2006. Hein, Cynthia était en première à l'époque. Elle faisait partie du conseil des délégués. En fait, elle était un petit peu outrée que le lundi matin, ses copines arrivaient à l'école en disant vite à la récréation ou dès qu'on a une heure de trou, on court à la pharmacie acheter la Norlevo, la pilule du lendemain. Et elle disait, c'est quand même dingue, avec toute la prévention qu'on a.
Ouais.
Elles arrivent encore le lundi matin et le week-end, elles ne se sont pas protégées.
On l'a souvent dit ici, hein, les filles ont plus les jetons de tomber enceinte que d'attraper le sida.
Bah justement, elle disait, ok, tomber enceinte, mais là, dans les voies, elles ne protègent pas du tout. Hein,
En fait, moi, je me suis sentie très vite concernée par le sida, très jeune en fait. Et du coup, je m'étais déjà informée et je m'intéressais réellement. Et mes amis, qui étaient même parfois plus âgés, venaient me poser des questions sur des choses basiques, simples, que tout le monde est censé, à mon sens, savoir. Quoi. Je veux dire, l'utilisation du préservatif, c'est pas inné, mais...
Il y a un relâchement au niveau de mettre la capote.
Relâchement, je crois que ça a toujours été un petit peu ça, non ?
Ouais.
Ben, en fait, justement, les cours d'éducation sexuelle, par exemple, les trois quarts des élèves sortaient de là en disant « c'est barbant, quoi ». On nous répète tout le temps la même chose. Alors du coup, ça avait un côté où ça se banalisait. Le préservatif, c'est bon, on sait qu'on... Mais finalement, ça se banalise, mais il n'y a pas d'évolution, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'amélioration, on va dire. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et nous, on est directement concernés. Même les parents. Il y a une génération qui nous sépare. Ils n'ont peut-être pas le même... Nous, on est plus réceptifs. On est censé l'être, en tout cas.
Vous pouvez éduquer les parents aussi.
C'est ça.
Et là, bon courage.
c'est dur.
Oui.
Donc, nous avons eu les déjeuners branchés cette année.
S'est terminé la semaine dernière. On a vu à peu près 120 élèves de classe de seconde. Je tiens à le préciser, parce qu'on a choisi les classes de seconde justement parce qu'ils étaient jeunes, Du moins, c'était les plus jeunes. Même s'il y a une autre section, effectivement, SECPA, où c'est une section de collège. Mais du moins en seconde, parce que peut-être ils n'avaient pas eu encore de rapport sexuel et qu'il fallait leur faire la prévention là avant qu'ils commencent leur vie amoureuse. Même si pour certains, c'est déjà fait, mais... les prévenir et pour qu'ils mettent le préservatif. Ouais. Quoi. C'est quand même dingue.
Ouais. Les déjeuners branchés rentrent dans un système de prévention prévu avec le lycée technique. C'est que les secondes, c'est le déjeuner branché. Les premières, c'est les après-midi du zapping. Et les terminales, c'est une rencontre avec Caroline Sanmori, qui est la psychologue du lycée technique, et moi-même de Fightes Monaco pour un débat libre avec les terminales. Donc chaque année, il y a une action.
Zaza, le 22 juin. Il y a les anges gardiens qui sont sur les plages du Larvoto.
Alors, normalement, oui. On n'a pas encore toutes les autorisations. On a déjà celle de l'éducation nationale, c'est bien.
Il faut avoir des autorisations.
Et on est sur la voie publique.
C'est pas renouvelable tous les ans.
Non. Mais bon, normalement, on nous dit oui. Hein, on ne nous refuse pas ce genre d'action.
Donc, c'est quoi, alors, les anges gardiens, distribution de capotes sur la plage?
Alors, pas que de capotes, puisque les anges gardiens, c'est un projet qui tente à limiter les risques directs liés à la prise d'alcool. Donc, effectivement... les rapports non protégés ou les rapports à risque, mais aussi les accidents corporels, les comas éthyliques,
Donc la violence.
La violence, tout à fait. Donc on fait de la prévention, on distribue des alcotests, des préservatifs, et on est aux côtés de Fightheads.
Ouais, particulièrement pour le 22 juin.
Le 22 juin,
c'est, 22 c'est juin. En partenariat entre les Anges Gardiens et Fightheads Monaco. Où nous allons, nous, à l'extérieur, au devant du public, pour passer un message de prévention, et aussi... certainement proposer le test de dépistage.
Test on the beach. D'accord, ça pourrait être le 22 juin aussi. C'est pas acté encore, ça. Hein.
C'est les autorisations.
D'accord.
C'est pas de miracle non plus.
Ouais, hein, ouais.
On fait les choses dans les normes. Pas de miracle. Nous respectons les règles.
Il faut être dans les normes, bien sûr.
En fait, Cynthia, c'était la première élève à avoir monté un projet et ça a fait des petits. Et les anges gardiens, en fait, c'est la suite de ça. C'est les jeunes qui préviennent leurs collègues jeunes et pas les adultes qui font de la prévention.
Laura, tu veux parler, Laura? Oui. Bonjour, Laura, ça va bien?
Bonjour. Ça va toujours.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Non, en fait, c'était pour revenir sur le sujet des déjeuners branchés.
Oui.
Tu l'as pas suivi, Malher?
Si, j'ai suivi.
Ah bon?
Il suit tout.
Ouais. J'ai participé l'année dernière au déjeuner branché. J'étais à la
table. T'es ému, hein? C'est normal.
Il y a trop de monde.
C'est Bruno Taillant qui te regarde. C'est à chaque fois, ça fait le coup.
Et donc, c'était un moment très convivial, en fait, parce qu'on était des petits groupes autour de plusieurs tables. Et donc, on pouvait parler sérieusement de sexualité, et sans gêne, sans avoir peur d'être jugé. J'ai commencé à poser des questions lors de ce déjeuner branché. Et par la suite, je suis venue ici.
Très bien.
J'ai eu un copain qui supportait pas le préservatif.
Oula.
Donc...
Tu lui dis au revoir tout de suite.
Exactement.
Et casse-toi. Hein. Ouais,
exactement. Ouais. Parce que moi, je voulais pas le faire sans. Et lui, il voulait pas le faire avec.
Quelle raison il disait
Je sais plus. Ça me sert trop.
Oui, ça me sert trop.
Voilà.
Mais oui, je t'aime.
Et il est parti. Et il est parti.
Il s'est barré.
Ah, mais c'est moi qui lui ai dit au revoir. Hein.
Ouais, tu l'as acheté, t'as bien raison.
Ah, mais il faut. Hein.
Exactement.
Il faut que toutes les filles fassent comme ça.
Mais...
Voilà.
Mais... Avant d'avoir une attitude radicale, parce que c'est un peu dur quand même, et puis des fois, quand il y a les sentiments amoureux, est-ce qu'on peut pas espérer qu'il y ait un peu une négociation, une histoire d'attente, de dire, bon, peut-être on passe pas tout de suite au rapport sexuel, mais pour que l'histoire, elle puisse quand même durer, parce que si on est radical comme ça...
Ouais, mais t'as essayé de raisonner un peu, Laura, non? Oui,
ça. Elle a essayé, elle a pas dit d'entrer, allez.
Je ne sais pas.
Ou c'est un neuneu, il comprenait pas.
J'avais l'impression que c'était ça un peu.
Ah, ben c'est un neuneu, voilà. Bon, si tu nous écoutes, neuneu.
Alors, c'était pas le bon,
C'était pas le bon.
Radio Monaco et Fight Heads présente Jungle Fight.
Oui, un Jungle Fight tout à fait merveilleux, exceptionnel, en direct du lycée technique hôtelier de Monaco. Le nouveau lycée technique hôtelier, avec toute l'équipe de Fighted et la princesse Stéphanie. Ouais. On accueille deux invités, mon cher Hervé, est-ce que tu peux les présenter? Il y a Stéphane.
Et Florence.
On n'a jamais traité ce sujet encore.
Non, nous sommes très heureux de les accueillir, puisqu'ils ont pris contact avec l'association pour nous parler de leur projet.
Pourquoi tu es là ce soir? Attention.
Bonsoir.
Bonsoir Florence.
Je suis là ce soir parce que mon époux et moi-même, nous avons adopté une petite fille au Vietnam qui est porteuse du VIH. Et nous voulons faire passer un message pour qu'en tant parent sans porteur du virus, on peut adopter un enfant avec cette particularité, que ce n'est pas un sujet tabou, pour faire un peu avancer les idées reçues sur cette maladie.
Comment ça s'est passé alors ?
Ça fait 4 ans et demi qu'on attend pour adopter un enfant. En début de l'année dernière, on a mûrement réfléchi avec mon époux pour un enfant. On avait déjà proposé un enfant. On voulait un enfant à besoin spécifique, donc à porteur d'une maladie, soit d'une hépatite ou autre. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants en Asie étaient porteurs du VIH. Donc on s'est rapproché des médecins pour avoir plus de renseignements sur le VIH.
Ça, c'est quand on vous a proposé,
avant, on voulait déjà un petit peu avoir des renseignements. Donc on s'est renseigné auprès de l'hôpital Necker pour avoir plus de renseignements. Après, on s'est rapproché aussi à Nice, auprès du docteur Monpou. Avec mon mari, on a bien réfléchi et on s'est rendu compte que c'est une maladie qu'on pouvait tout à fait gérer tous les deux. Déjà, pour l'adoption, il faut avoir un esprit très large et très ouvert. Donc, de ce fait, on...
Elle a quel âge ?
Elle a 2 ans et demi.
Elle est où, dans un orphelinat ?
Elle est dans un orphelinat dans le sud du Vietnam.
Ouais.
Voilà.
Elle est soignée, bien sûr.
Elle est soignée de la trithérapie depuis l'âge de 2 mois. Ça se passe très bien.
Une qui a la chance d'être soignée.
Qui a la chance, exactement, d'être soignée parce que c'est une fondation Bill Clinton, en fin de compte, qui verse des fonds sur le Vietnam pour soigner les enfants. Sachant que dans l'orphelinat où se trouve notre petite fille, ils ont plus de 150 enfants et qu'il n'y en a que 87 qui peuvent être traités. Parce que malheureusement, les autres enfants n'arrivent pas à accepter la trithérapie. Donc nous, c'est une chance qu'elle soit déjà soignée depuis l'âge de 2 mois. Elle accepte très bien. Bon, elle a des petits soucis de santé, donc c'est pour ça qu'on se languit de la rapatrier rapidement. Quand vous êtes dans un orphelinat, ben, les conditions sont dures. Ils n'ont pas une alimentation très équilibrée, ils n'ont pas d'amour, d'affection. Donc c'est une petite fille qui a besoin de beaucoup de ça, je pense, beaucoup d'amour, d'affection, et puis après d'avoir un bon suivi aussi à côté.
Je crois que vous m'avez dit qu'il y avait d'autres parents comme vous, parce que nous sommes très très heureux. Ce que vous nous annoncez là est un formidable message d'espoir. Hein. Et donc vous avez fait ce choix-là, alors que d'autres parents...
Oui, d'autres parents...
Sans porter de jugement de notre part.
Oui, tout à fait, mais en tout cas, j'étais très déçue parce qu'il y avait d'autres parents qui voulaient à tout prix des enfants. Ils ont accepté un enfant VIH et puis après, en regardant les dossiers médicaux quand ils arrivent, parce qu'on vous transmet les dossiers médicaux des enfants, ils ont trouvé que c'était trop lourd et ils se sont rétractés. Donc nous sommes le seul couple à partir pour aller chercher un enfant VIH.
Bravo.
Bravo, bravo. Alors, peut-être qu'on peut poser la question à Stéphane, au papa. Aujourd'hui, quelles sont pour vous, en tant que parent, les inquiétudes, peut-être les difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à cette démarche ?
C'est encore un sujet tabou aux yeux de beaucoup de gens. Donc on peut s'en rendre compte dès qu'on parle de VIH, de sida. Les gens sont très réfractaires. Et voilà, le fait d'adopter un enfant, on va dire, porteur du virus... montre que bon, bah, ça peut être un enfant qui peut vivre et être comme tous les autres.
Et comment vous préparez son arrivée, par exemple, par rapport au traitement ? Vous avez donc déjà, vous savez où elle va être suivie.
Voilà, on s'est renseigné pour le traitement. Donc, dès l'instant où on va aller récupérer notre petite fille là-bas...
C'est acté, le départ, pour aller la chercher, ce mois de septembre, c'est
ça ? Pas encore.
Qu'est-ce qui bloque ?
C'est les autorités vietnamiennes qui bloquent, parce que les démarches sont assez longues. Et
pour
malheureusement.
Pour quelle raison ils bloquent ?
C'est dans ces pays-là, c'est très difficile.
Ouais.
Moi, je me suis renseigné auprès, donc, moi en tant que profession libérale, auprès de la CAMTI. Et c'est vrai que ce qui freine un peu, c'est que lorsqu'on arrive là-bas pour aller récupérer le traitement, ils ne nous le donnent plus. Donc c'est à nous de venir avec notre propre traitement pour elle.
Ah ouais ?
C'est à la charge des parents, voilà, tout à fait.
Aujourd'hui, c'est
à notre charge. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que si on veut faire avancer les choses. Je pense qu'il faut aider justement les gens qui partent pour faire cette démarche-là, les accompagner, que ce soit au niveau du traitement, que ce soit pour tout ça. Quoi.
Oui, on sait l'importance que l'enfant soit bien suivi et le traitement tout de suite. Donc il faut que les parents aient les moyens de faire la transition entre l'accueil et l'adoption réelle.
Ouais. C'est primordial qu'il n'y ait pas de rupture de traitement et que le traitement soit poursuivi. Après, ça dépend de quel traitement a été donné là-bas et si peut-être que le traitement ici pourrait être allégé ou moins toxique ou moins ça, je sais pas. Mais sa chance, ça a été sûrement, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'enfant Mississippi dont tout le monde a parlé, c'est-à-dire le premier cas de guérison chez un enfant, mais qui a été traité à la 33e heure, hein, donc c'est un peu différent. Mais de réussir à traiter un enfant très très tôt, c'est-à-dire à 2 mois après sa naissance, c'est lui donner une chance de vie normale supplémentaire. Je rappelle que dans les années 80, l'espérance de vie d'un enfant séropositif, c'était 6 mois. Au jour d'aujourd'hui, les enfants grandissent, ont une évolution tout à fait normale et ont une vie quasiment normale, à condition, comme vous l'avez dit, de les entourer de beaucoup d'amour, d'avoir une nutrition adéquate, d'avoir un traitement adéquat, d'éviter les toxiques dans l'adolescence, hein, le tabac, l'alcool, les drogues. Mais c'est très bien.
Ouais. Vous aviez une certaine appréhension, parce que vous-même, vous disiez que vous veniez à Faites Monaco pour contribuer à la parole, pour faire avancer les choses et évoluer par rapport au VIH. Votre inquiétude, c'est par rapport à votre enfant. Quelles seront les conséquences pour elle? Est-ce qu'au niveau de l'école, il y a déjà des choses? Vous avez déjà des... pris des contacts déjà?
Oui, elle est inscrite à l'école du parc. Donc voilà, et c'est vrai qu'on se pose encore les questions de savoir si on doit informer la direction ou juste l'infirmière, s'il doit y avoir le secret professionnel aussi, parce que bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, on va dire que malheureusement, quelqu'un qui est porteur d'une hépatite C, ça choque pas, quelqu'un qui est porteur du virus... Tout de suite, on va vite le mettre de côté. Et ouais. C'est ce qu'on veut, nous, éviter. Justement, c'est pour ça qu'on est là, nous, pour faire avancer justement ça, en disant que bon, bah, un enfant qui est porteur du virus ou qui a le sida peut vivre et peut être en contact de tous les enfants.
Vous faites déjà avancer les choses, de dire, nous, on accepte, on prend cet enfant.
Oui. On devrait
mais c'est
pas
déjà
être
bien, vous le faites, et c'est un formidable message d'espoir pour nous qui travaillons dans la lutte contre le sida, pour les personnes vivant avec le VIH, de voir qu'une enfant vivant avec le VIH n'est pas laissée de côté.
Bah ouais. Merci Stéphane.
Merci. Merci à vous. Florence.
Merci. Bah, de toute façon, vous êtes au courant. Hein, oui, bravo. Hein.
Merci. Bravo, on les reverra forcément à l'antenne.
Oui, avec la petite.
Avec voilà. La petite, le prochain rendez-vous.
Effectivement, lors de vos déplacements à Madagascar ou encore en Afrique du Sud, certainement vous avez pu visiter des orphelinats d'enfants. Quelles sont les conditions de vie de ces enfants qui sont atteints du VIH?
Bah, à Madagascar, j'ai pas trop vu d'orphelinat, en fait. L'hôpital, ça m'a suffi. Mais bon, non, on a vu un orphelinat géré par la fondation Desmond Tutu en Afrique du Sud. Donc c'est différent, c'est avec une fondation donc qui est très très active, très très dynamique. Mais qui est dans un township et c'est très original et bien fait. C'est une grande maison qui est gérée par les femmes du township du quartier. Elles se relaient, elles sont 2-3, donc il y a les plus petits en bas avec elles. Ils mangent. C'est une vraie cuisine avec une vraie salle à manger. Elles sont pas très nombreux. Et après il y a le bâtiment des ados avec une autre équipe qui s'en occupe. Et c'est que des femmes du quartier qui se relaient pour être là toujours une la nuit, les autres qui viennent faire à manger, l'autre le linge. Donc ils ont l'impression d'être vraiment vivre en famille. Je crois qu'ils étaient une quinzaine maximum dans l'orphelinat. Et ils ont ça un peu dans chaque townships, mais c'est géré par des ONG. Après, les orphelinats d'État, ça, j'ai pas vu, mais il y a beaucoup, beaucoup de séropositifs dans ces townships. Tous les enfants qui sont là, ils ont peut-être pas été de tout bébé, parce qu'il y a peut-être encore de la famille qui peut s'en occuper, mais ils sont là parce qu'ils ont plus personne. C'est-à-dire que tout le monde est mort du sida, et il y a plus personne, il y a même plus la grand-mère, une tante, ou quelque chose, parce que dans ces townships, ils sont très organisés. Même si les parents décèdent, le petit, c'est ou la grand-mère, ou qui se retrouve quelquefois avec 6-7 enfants à charge, parce que tous ses enfants sont morts, et donc elle a tous les petits-enfants. Mais c'est, voilà, les gens s'organisent comme ça.
Jade.
Bonsoir.
Bonjour Jade. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors je voudrais revenir sur une action qu'on devrait mener si on réussit à obtenir toutes les autorisations comme l'a dit Zaza tout à l'heure. Ça serait le 22 juin prochain au niveau de la Rose des Vents au Larboto. Donc cette action elle sera menée par les anges gardiens du lycée technique hôtelier de Monaco. Et,
vous allez distribuer des capotes et des alcool tests?
Oui.
D'accord, sur la plage?
Oui.
En général les gens...
J'espère qu'il fasse beau.
Oui. Oui, parce qu'on est toujours en hiver. Faudrait que ça continue. Comment les gens prennent ça? Tu l'as déjà fait? Les gens
non,
sur la plage
encore.
Non, pas encore. Bon, en général, c'est plutôt... Ouais,
je accepté, pense
ouais.
Que...
ouais. Ça va. Hein,
bah oui, l'accueil se passe bien. Ils sont de façon décontractée. Il y a des jeunes, les anges gardiens sont jeunes. Ceux de Fighted de Monaco sont un petit peu plus vieux, aussi vieux que Karine. Donc ça permet un petit peu de changer le public et d'aller en fonction. Les jeunes vont plutôt vers les jeunes, Karine vers les vieux.
Mais je crois que les jeunes...
Ah, elle aime bien les vieux, de toute façon. Bah ouais.
Ne rêve pas.
Salut Karine.
Malheur va venir le 22 juin, n'est-ce pas?
Oh, si
Karine,
veux, si tu veux.
Karine vienne lui parler
mais
sur
oui,
la
mais
plage.
Oui, mais moi, si je distribue des capotes, les
non, non,
les
non, non, c'est
vont,
pas pour que tu en distribues.
Elles vont sauver.
Non. C'était pour que Karine vienne te passer un message.
Non, mais tu n'avais pas un truc à faire le 22 juin, ailleurs?
Radio Monaco pourrait peut-être venir nous soutenir lors de cette journée.
Si tu veux, on est open.
Non, mais je crois que c'est important que ça soit des jeunes qui distribuent les préservatifs.
Aux jeunes.
Aux jeunes, c'est beaucoup mieux accepté. Et voilà. Et les anges gardiens, c'est vraiment
vraiment quelque chose au top.
D'accord, les
moi,
vieux
je
sont
les adore
encore...
et je les trouve
au top. Les vieux sont encore exclus, voilà. Stéphanie. Hein, les vieux sont exclus.
J'étais en train de parler, oui, je gardien, c'est pas grave, malheur.
Laisse parler la princesse qui disait
mais
des choses importantes.
Laisse parler, mais...
On n'a pas entendu, du coup.
Si, si.
Mais tu vas te taire,
mais
malheur,
tu vas
laisse
taire,
parler
alors.
La princesse.
Mais alors la princesse.
Allez-y, Altesse.
Moi, je voudrais juste qu'on applaudisse les anges gardiens, voilà. Parce qu'ils sont au top. Voilà.
Jade, une autre question.
Je voudrais juste rappeler aux auditeurs qu'il y a un rapport entre l'état d'ébriété et le VIH. Lorsqu'on a bu, on est donc désinhibé et que le préservatif est souvent oublié ou mal mis et que tout ça augmente donc le risque de
ben
contamination.
Voilà. Ils sont bien, ce oh là, qu'est-ce qu'elle avait bien.
Vous avez dit qu'ils étaient au top.
Oh là là, là. No finish line.
Exactement, il y a une no finish line ce samedi 1er juin, organisée lors de la conférence européenne des jeunes chambres internationales, qui d'accord. organise une mini no finish line.
C'est grand
donc
samedi.
Venez nombreux
samedi.
De 10h à 17h sur le parvis du Grimaldi Forum pour marcher. Les bénéfices seront reversés à Fighters Monaco.
Des sous.
Merci à la
pour rappeler la no finish line, c'est une course qui se déroule au mois de novembre traditionnellement.
Mais oui.
Une course autour du port Hercule pour apporter de l'argent.
Voilà. De l'argent.
Jungle Fight.
La grande émission de radio qui parle du SIDA toute l'année avec toute l'équipe de Fight Heads et bien sûr la princesse Stéphanie. Ouais, on applaudit. On voulait saluer monsieur Gonassia, proviseur du lycée, du nouveau lycée technique hôtelier de Monaco. Monsieur Gonassia, merci.
Merci,
on est
pour
content
votre
de t'avoir. Merci de votre accueil. Et merci de nous envoyer des étudiants toute l'année dans l'émission.
Et j'en profite pour dire quand même, grâce à Monsieur Gonassia et bien entendu l'éducation nationale,
oui.
C'est quand même grâce à Monsieur Gonassia que nous pouvons mener ces actions depuis très longtemps au lycée technique.
Salut Kelly, tu vas bien?
Oui, et vous?
Oui, et vous?
Qu'est-ce que tu veux savoir, Kelly?
C'est que moi, je suis en 3e SECPA.
D'accord.
La SECPA, c'est une section d'enseignement général professionnel adapté.
Oui.
Et donc, nous, sur ce sujet du sida, on est passé vite fait. Et on voudrait savoir si, sur le niveau collège, on pourrait avoir plus de prévention.
De prévention là-dessus? Bah, pourquoi pas?
C'est tout à fait possible. Hein. Ça a été fait il y a quelques années avec les SECPA où nous avions des actions spécifiques avec Fighters Monaco. Donc ça, après, c'est une question d'organisation et c'est possible, effectivement.
Est-ce qu'on peut attraper le sida même quand le garçon n'éjacule pas?
Ah, c'est une très bonne question pour le célèbre docteur Taillant.
On a réveillé le docteur Taillant.
On t'a réveillé, docteur. T'as encore un œil collé, là.
Non, tout va bien. C'est l'éternel problème. Les garçons disent que non. Pour imposer un rapport non protégé, dès qu'il y a pénétration, il y a risque de contamination.
Ah, ils voilà. disent ça. Ah, les couilles.
Ah, je sais pas ce qu'ils disent, mais je suppose. Hein.
Toi, tu dis rien parce que tu
c'est des baratineurs. Voilà. Tout rapport doit être protégé. Comme disait tout à l'heure, la prise de risque, ça veut rien dire. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Il y a une prise de risque et donc tout rapport doit être protégé avec ou sans éjaculation, même si c'est vrai que la contamination est beaucoup plus importante lors de l'éjaculation.
Et quand on ne veut plus mettre le préservatif dans le couple, on va passer tous les deux un test de dépistage. Et si les deux sont séronégatifs? Et qu'ils
alors,
sont fidèles.
Mais je n'ai pas ce que ça a à voir avec l'éjaculation, la question.
Mais non, mais comme le docteur rappelle qu'il faut tout le temps mettre un préservatif pour tout rapport,
oui.
À un moment donné, on peut ne pas mettre le préservatif.
Voilà. Est-ce qu'on peut attraper le sida quand on éjacule tout seul, Bruno Taillon?
Ça, c'est pour malheur.
Oh, j'avais envie de dire ça, je sais bien que ça ne se fait pas, mais bon, tant pis.
Si on s'éjacule dans l'œil, oui.
Ah, dans le... ah ben voilà, ça est dans l'œil.
Il l'a fait, c'est bon. Excusez-nous, on a perdu Malheur.
Merci Kelly. Merci. Cindy, bonjour. Pourquoi Cindy, qu'est-ce que tu veux savoir?
Moi j'aurais une rapide question sur
oui.
Fightheads.
Oui.
Donc je voulais savoir si Fightheads Monaco avait un forum sur internet pour pouvoir poser des questions.
Ah bah bien sûr. Oui.
Non, ça serait une bonne idée. Hein, Karine?
Ah parce que
non, nous n'avons pas de forum. Vous pouvez poser des questions, bien entendu. Il y a une adresse mail, vous posez la question, on répond. Mais il n'y a pas de forum direct parce que nous n'avons pas l'équipe suffisante pour faire ce type d'animation. Puisqu'il faut qu'il y ait un, comment on appelle un...
Bon, tu vas sur... De toute façon, tu vas sur Internet.
Oui.
Tu vas sur Internet, tu...
Oui, sinon, mais sur le site, vous pouvez poser des questions.
Tout
et
à fait. Ou appeler, sur Fight.
Oui, ou sur la page Facebook aussi.
Aussi.
Ou t'appelles le docteur Bruno Taillon, on va te donner son portable tout à l'heure.
Ou vous t'appelles Hervé le soir à la maison.
Ou Hervé répond à
tout. Et surtout, n'appelle pas Malheur.
Non, surtout pas.
Tu peux m'appeler.
Ça, t'avais compris.
Oui. Tu vas être déçu. Hein. On a Sébastien, un petit nouveau qui est avec nous. Salut Sébastien.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu veux savoir? T'as quel âge? On peut savoir ton âge?
J'ai 17 ans.
17 ans, d'accord.
Alors je voudrais savoir, quand on est mineur, si on peut se présenter seul au centre de dépistage ou s'il faudrait être accompagné d'un adulte.
Bonne question.
C'est anonyme et gratuit. Donc par définition, c'est anonyme. Donc il n'y a pas de date de naissance. Donc n'importe qui peut aller au centre de dépistage. Voilà.
Voilà.
Il n'y a aucun problème
oui,
pour
bah,
ça.
Tu fonces, ouais.
Ouais.
D'accord.
Parce que le problème, par exemple, au niveau des urgences ou autre, c'est que parfois on peut y aller de façon anonyme, mais tes parents reçoivent la facture pour le remboursement, donc il y a une trace. Là, il n'y a aucune trace de rien du tout, personne qui sera au courant si ce n'est toi.
Mais bon, quelquefois, malheureusement, qu'il n'y a pas de trace, parce que quelquefois, il y a des personnes qui viennent se faire dépister.
Et qui ne reviennent pas.
Et qui ne reviennent pas chercher les résultats, et qui sont malheureusement séropositifs, et qui sont dans la nature sans savoir leur statut sérologique. Et ça, ce n'est pas forcément bien de l'anonymat complet, il devrait y avoir un moyen pour que les professionnels. Qu'on recontacte la personne, quoi, mais bon.
Salut, oui. Julien.
Salut.
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Par rapport au dépistage, est-ce que c'est un test rapide, c'est autant fiable qu'un test normal ?
Au jour d'aujourd'hui, oui. C'est-à-dire, c'est presque 99% de sensibilité et de spécificité, ce qui veut dire que c'est aussi fiable que les tests normaux, au bémol près qu'il faut que la prise de risque, normalement, soit intervenue relativement précocement, c'est-à-dire au moins 15 jours à un mois avant. Parce que si on fait un test rapide de dépistage trop rapidement après une prise de risque, ça n'a pas de valeur. De toute façon, comme le disait Hervé tout à l'heure, tout test rapide doit être confirmé par une prise de sang.
T'as déjà fait des tests?
Mais en cas de résultat positif.
En cas de résultat positif, bien sûr.
Non.
T'es un mec sérieux, toi.
Sérieux.
Plus d'une partenaire différente dans l'année, il faut faire un test. Et même d'ailleurs, première partenaire, faut faire un test. Hein. Il faut faire des tests de toute façon.
On se protège tout le temps.
Enfin, ouais, mais
même si on est protégé.
L'expérience montre quand on fait des études épidémiologiques, quand on demande aux gens leur pratique, il y a souvent même quand on est protégé. D'abord, le préservatif n'a jamais protégé à 100% pour plein de raisons. La seule protection qui est supérieure au préservatif, c'est la trithérapie.
Oui, donc c'est pas
fort, mais c'est
pas terrible non plus.
Hein. Ouais, ou l'abstinence, bien sûr, ou l'abstinence. Donc c'est fort, mais c'est...
Mais là,
c'est...
tu t'ennuies, hein.
Ouais, voilà.
Mais donc, c'est long, hein, 5 ans.
Le fait d'avoir des rapports protégés, si on a des conduites à risque et des partenaires multiples, n'empêche en aucune façon de réaliser des tests de dépistage réguliers.
Oh là là. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Alors, donc, moi, je suis en section hôtelière, et donc j'ai une question dans le domaine de l'hôtellerie.
Vas-y.
Pourquoi est-ce que dans certains pays, le test du VIH est obligatoire pour travailler dans les métiers de bouche ? Et pas en France et à Monaco ?
Alors, ça,
attention.
Je sais pas.
Tu fais rentrer en cuisine.
Métier enfin, de bouche, c'est-à-dire cuisinier. Alors, la bouche, serveur, il pense. Barman. J'explique à Hervé.
Métier de bouche, il pense à autre chose. Oui, merci. Il est complètement obsédé.
Je ne pourrais pas répondre pour les autres pays. En l'occurrence, en France et à Monaco, on considère que le fait d'exercer ce métier-là, il n'y a pas de risque de contamination. Et comme l'a dit le docteur tout à l'heure, quand on se blesse, on prend les mêmes précautions, c'est-à-dire que on se soigne, on arrête la plaie qui saigne. Donc, il n'y a pas de risque de contamination dans ces métiers-là.
Je ne sais pas si la question c'est pour les Émirats Arabes Unis, mais par exemple pour les Émirats Arabes Unis, il n'y a pas que les métiers de bouche. Hein. Tout travailleur étranger qui veut travailler dans les Émirats Arabes Unis doit avoir une sérologie VIH obligatoire, et c'est pas un certificat, c'est parce que les certificats ça se bidonne, c'est un dépistage sur place
ouais.
Avec un médecin local.
Ce sont des précautions inutiles.
Parce que s'il y a bien une façon de ne pas transmettre le sida, c'est les métiers de bouche.
Salut, bon Jordan.
Bonsoir.
Bon, là, il va encore nous...
Oui, ça y est.
Je sens.
Il est encore arrivé une catastrophe.
J'ai encore une question pourrie, là. Alors, j'étais en boîte de nuit, j'étais complètement pété.
Je veux partir.
Il était 4h du matin.
Mets le casque.
La dernière fois, c'était les pouilles, rappelle-toi.
Ouais. Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie?
Vas-y, Jordan.
Je n'ose plus me raconter maintenant.
Mais si, raconte tout, mais ouais.
Bon, c'était pendant le Grand Prix.
Eh ben voilà. Ça y est, ça commence.
Mais il conduisait peut-être
Il y a une période un peu creuse, parce qu'on a eu le Nouvel An. On a eu...
Ah ben ça y est, voilà. Grand Prix.
Tu fais une pause entre les deux.
Tu fais une pause. Voilà.
Donc j'étais sur le pont Hercule, je croise une Russe.
Ben c'est ça en plus.
De toute façon, t'as au pont Hercule pendant le Grand Prix.
Et tu vois ce que je veux dire. Dans un établissement à Monaco, donc
voilà.
On danse. Et il y a un ami à moi qui me dit, je te prête mon bateau. Alors on va dans le bateau.
T'as des bons potes, toi, dis donc.
On va dans le bateau, voilà, il se passe ce qui doit se passer. Et bon, j'avais un peu bu, et je me rends compte que...
À chaque fois, de toute façon, s'il n'a pas bu, il vient pas, il vient pas.
Je me rends compte que j'avais pas de préservatif.
Et voilà.
Et je lui dis à la fille, et elle me dit, mais t'inquiète pas, ça devrait le faire, je prends la pilule. Moi, sur le coup, j'ai dit, oh ouais. Et après, bon, toujours la petite image de Zaza dans la tête.
Ah bah Zaza, c'est un... Ah bah moi, je la mets... Moi, j'ai mis sur mon portable la photo de Zaza.
En fond d'écran.
Ah, ça calme.
Mais en fait, elle te poursuit, Zaza, tout le temps. Hein.
Ah, Zaza, ça calme.
Dès qu'on a un problème, Zaza.
C'est l'ange gardien.
C'est l'ange gardien, en fait. C'est votre ange gardien. Hein.
Du coup,
ouais.
Je lui ai dit, sans préservatif, ça va pas être possible. Alors, je me suis habillé et...
Et t'as maudit, Zaza.
Non, mais tu te fous de nous,
non,
quoi.
Je me suis habillé. Je lui ai dit, donne-moi 2 euros.
Et t'as sauté dans l'eau.
Non, j'ai couru tout le port. Je suis tombé, je me suis fait très très mal au genou. Il y a tout le monde qui m'a regardé en pensant que j'étais...
Mais à part faire des soirées pourries, qu'est-ce que tu fais, toi?
Et je suis arrivé devant la pharmacie, j'ai pris les préservatifs et je suis
retourné. Et ça c'est bien.
Il fait bon être jeune, Malheur. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, parce que la partie courir sur le pont
est courir, Malheur, non, non, mais c'est un... et revenir et,
ah non, c'est
et pouvoir
imposé,
avoir
moi.
Un rapport. C'est...
Ah non, puis avoir un rapport après avoir couru. Alors là, t'oublies, là.
Vous, vous remarquez que c'est quand même la fille qui a payé les préservatifs. Hein.
T'es vraiment un vieux rat.
J'avais un nouveau billet de 5.
Ils le prennent
pas. Ça rentre pas dans la machine.
Voilà,
ils le prennent pas.
Non, parce que la nuit avec les machines. Hein,
Mais comme quoi, les parents, ils disent souvent aux enfants, ma fille... prends la pilule pour pas avoir d'enfant.
C'est ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de parents. On avait essayé, nous, de faire de l'éducation de parents à l'association, c'est-à-dire qu'ils viennent poser leurs questions, justement, à propos du VIH et tout. Justement, c'est à la nouvelle génération d'un peu d'éduquer les parents sur le VIH. Et ce que je comprends pas, c'est que les parents, voilà, de gamins de votre âge, je veux dire, c'est ma génération, et si moi j'y arrive, ils peuvent y arriver aussi. Genre, on a tous été jeunes, faut pas qu'ils pensent que vous êtes tous nés de l'Immaculée Conception, hein, ça va, hein. C'est ce que c'est. Je veux dire, c'est bon. Mais je pense que c'est important, les parents surtout, qu'ils aient le dialogue avec leurs enfants jeunes là, sur ces choses-là. Il faut arrêter d'être hyper prude, hyper coincé, de ne pas parler à ses enfants de sexualité voilà, jeune, avec les mots qui vont avec chaque âge. Et puis après, je ne sais pas, moi, les miens, c'est, quand ils ont commencé à être en âge de parler de tout ça, bah, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu tombés dedans, petits, avec Fight Heads, mais... j'ai dit à les préservatifs, il y en a toujours à la maison. Si eux n'avaient pas le temps d'en acheter, ben moi, il y en avait toujours ou de l'association, j'allais en acheter. Ils partent en vacances, ils en ont dans la valise. Enfin voilà, c'est quelque chose de normal que les parents doivent faire parce qu'ils ont autre chose à penser que peut-être de toujours en avoir sur eux, la preuve. Et voilà.
Et ben voilà, tu sauras maintenant.
J'avais oublié.
Les amis, l'émission est presque finie. Je voulais saluer quand même la mémoire de Philippe Pic. Philippe Pic qui nous a quittés récemment, je connaissais bien.
Oui, que nous avons eu d'ailleurs au micro.
Exactement.
À qui tu as coupé la parole.
Alors,
et
ouais,
qui n'avait pas du tout aimé.
Il avait un resto à Roquebrune, la Dame de Pique, il y a 10 ans. Je lui ai coupé la parole. Et à chaque fois que je le revoyais, il venait me voir. Tu m'as coupé la parole.
Ah, non, nous, on ne dit rien. Bon, tu nous la coupes aussi, la parole.
Merci, oui, pour cet hommage.
Merci pour nous Philippe.
Philippe. Ouais. Merci à Bruno Taillant. Je lui ai amené un copain à moi dans un drôle d'état. Il l'a sauvé.
Ah,
je
il
voulais
est bien.
Le remercier.
Non, il est bien.
Nous avons un bon.
Voilà, les amis.
C'est non seulement un bon docteur, mais un bon vice-président aussi.
Ouais. Il est bon partout.
N'est-ce pas, Altesse ?
Bien sûr.
Merci, Altesse.
Ok, les amis, on se donne rendez-vous dans un mois, bien sûr. On sera à Carpentras, à la maison de ville Carpentras. On sera tous là-bas en direct. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci, Stéphanie.
Merci, Malheur.
Voilà,
on
c'est
va te
un
coucher,
hommage.
Malheur,
bah, ça y est, je suis déjà en pyjama, de toute façon.
Non, mais t'es fatigué.
Ciao, ciao, les amis.